Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pellat.
Le bonheur, tout le monde y aspire et bien souvent, lorsqu'on y réfléchit bien, une bonne partie de nos actions et de nos réflexions le vise. Côté philosophie, si depuis toujours c'est probablement d'abord le mystère du mal qui a le plus stimulé la pensée, comme en miroir, c'est toujours posé la question du bonheur. Qu'en ont dit les grands philosophes ? Cela aurait pu être le titre du livre de l'auteur que je reçois ce matin. Comprendre le bonheur, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Voilà, émission ambitieuse, avec comme invité Bernard Ribal, agrégé, docteur en philosophie et auteur, et président des Semaines Sociales de Toulouse et auteur donc d'un ouvrage récemment paru aux éditions Salvator, Le paradoxe du bonheur, christianisme et histoire de la philosophie. Bonjour Bernard Ribal.
Bonjour.
Voilà, vous êtes maintenant presque un habitué donc de cette émission. Vous avez écrit donc ce livre sur le bonheur. Vous êtes donc, comme je l'ai dit en introduction, philosophe de formation. Comme on vous entend intervenir régulièrement à cette antenne, on finit peut-être par l'oublier. Je voulais qu'on commence par le propos introductif de votre livre, qui va nous aider peut-être à comprendre pourquoi vous avez voulu écrire cet ouvrage. Vous parlez du bonheur et peut-être de l'idée que l'on s'en fait aujourd'hui, l'idée la plus répandue, et pour ça vous citez Philippe Delerme, voilà, auteur entre autres de Le bonheur, tableau et bavardage. À vous lire, le bonheur serait quoi pour nos contemporains? Une forme d'épicurisme avec un petit mélange de volontarisme. Comment vous présenteriez peut-être l'idée contemporaine qu'on se fait du bonheur?
Oui, déjà l'épicurisme c'est souvent pas ce qu'on croit, quoi. Mais peu importe, ce sujet, Philippe Delerme essaie d'expliquer que le bonheur est dans l'instant. Nos contemporains pensent souvent que le bonheur, c'est saisir l'instant. Mais même lui, et c'est ce que j'essaie de montrer dès les premières pages, même lui montre que c'est très lié à l'engagement, quoi. C'est très lié à des perspectives de projection vers l'autrement et vers l'ailleurs. Alors, si bien que ce que j'ai voulu dire, moi, dans l'ensemble du livre, en allant très très vite, c'est que il y a deux sortes de bonheur. Un bonheur sécurité intellectuelle. Par exemple, je cherche des repères, des trucs qui me rassurent, des points fixes, des sécurité morale, avoir bonne conscience, avoir des recettes, être bien pensant, la sécurité matérielle, son confort, être sûr que j'aurai toujours assez de moyens pour vivre et survivre. Bref, contrairement à ce que les gens croient, on ne vit pas avec ça dans le plaisir, on vit dans l'angoisse, dans le souci angoissé de son insécurité, de sa sécurité toujours menacée. Et donc là, dans ce cas-là, il y a un repliement sur soi, c'est une forme de bonheur, ça peut être le bonheur, et c'est celui du « je me trouve en me cherchant ». Mais par opposition à celui-là, il y a une autre forme de bonheur, et c'est là le paradoxe, c'est qu'il y a un bonheur contraire à celui-là, c'est le bonheur don de soi. Le paradoxe, c'est de convertir la peur du risque en goût du risque. Je peux vivre sans cesse dans la peur des risques de la vie. Mais il y a aussi des expériences dans ma vie où j'ai, au contraire, l'exaltation, la joie du goût du risque. C'est ce que développe, par exemple, Nietzsche. Et ça peut être le don de soi à quelqu'un, ça peut être le don de soi à une cause politique, ça peut être le don de soi à un sport, à un art. Bref, il s'agit là, non pas d'une fermeture sur soi, mais d'une ouverture à l'altérité, d'une ouverture aux autres. Et là, je me trouve en me perdant. C'est une phrase de Manuel Mounier, philosophe du XXe siècle, je me trouve en me perdant, c'est-à-dire je m'affirme en allant jusqu'au bout.
Alors, Bernard Ribal, on va en parler, donc paradoxe du bonheur, c'est le pro introductif. On a choisi de ne garder que trois figures philosophiques.
Oui, sur 10 ou 12.
Voilà, sur 10 ou 12, puisque c'est comme ça que fonctionne votre ouvrage. Donc Platon, Aristote, Jésus-Christ, le Moyen-Âge, Karl Marx, Frédéric Nietzsche, etc. C'est la table des matières. On a choisi Descartes, Sartre et de finir par Jésus-Christ, évidemment, si on peut dire de lui que c'est un philosophe. Pourquoi était-il important, peut-être, pourquoi ce choix, à votre avis, Descartes et Sartre, c'était les deux bonnes portes d'entrée pour comprendre l'idée qu'on peut se faire du bonheur aujourd'hui.
Oui, c'était deux portes d'entrée que vous avez bien fait de me proposer, parce que Descartes, c'est vraiment celui qui est en quête du repère fixe. Il appelle ça le point fixe et sûr. Et donc, il exemple du bonheur par resserrement. On sécurise partout, on clôture, on verrouille, on se rassure. Et Sartre, c'est tout l'inverse, quoi. Y a plus rien, quoi. Y a plus de repère du tout. C'est le vide complet. Donc, c'était deux bons exemples. L'un, l'altérité Sartre, l'autre, le refermement sur soi Descartes. Y a pourtant des points communs. Et après, bon, la position du Christ, qu'il est ni celle de l'un, ni celle de l'autre, quoi.
Alors, si on commence par Descartes, donc charge à vous de nous aider à comprendre quelle est la pensée de Descartes du bonheur, et puis, au long de votre intervention, d'essayer de faire des ponts avec aujourd'hui, avec nos vies, pour qu'on puisse voir en quoi, en fait, notre pensée ou la manière qu'on a d'envisager, même personnellement, le bonheur, est probablement en partie influencé par cet homme. Si je devais introduire votre propos, je vais vous lire. Vous dites au tout début que Descartes, c'est, on va dire, la figure philosophique qui introduit d'une certaine manière notre monde contemporain, une nouvelle forme de bonheur, le bonheur moderne, dites-vous.
Bonheur occidental.
Bonheur occidental, oui. Et avec donc ce trait de génie, alors on le comprend un peu plus en vous lisant, le fameux « je pense ». Descartes découvre pour la première fois dans l'histoire la distinction claire que presque tout le monde acceptera plus tard, la distinction du sujet qui pense et de l'objet qui est pensé. « Je pense, c'est sûr, je pense donc je suis ». Alors, expliquez-nous pour les nuls en quoi cette découverte de Descartes a été une révolution.
Et en gardant comme objectif le bonheur, quoi, parce que si on est trop dans les généralités, on risque de se perdre. On reste fixé un peu sur le bonheur. Descartes, c'est un coup de théâtre dans l'histoire, parce que tous les philosophes avant lui vont chercher le repère, parce que tout le monde recherche le repère.
Qu'est-ce que vous appelez le repère ?
Ben
quelque chose sur lequel s'appuyer, c'est ça ?
On souffre du tout fout le camp. La mort est l'exemple spectaculaire, mais tout fout le camp. On se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, disait Héraclite. Hein, tout change, tout fout le camp. Et les philosophes ont eu pour tâche de rechercher s'il n'y avait pas des points fixes, des havres de paix, des repères confortables qui puissent me rassurer, donner du sens. Et Descartes, oui, il dit c'est la bonne direction, hein, on va chercher là-dedans. Mais vous êtes complètement gouré à savoir que c'est pas à l'extérieur de soi qu'on va trouver le repère. C'est pas dans une transcendance du monde des idées comme chez Platon, ou c'est pas dans un dieu immobile comme chez Aristote. Mais le repère, c'est vous-même. Le repère, il est dans le sujet, il est dans le « je pense ». La preuve, c'est que lorsque je teste les vérités, il n'y en a aucune qui résiste. Quand je pense, par exemple, est-ce que mes sens me donnent la vérité ? Non. Il y a des fois, j'ai des illusions. Est-ce que la raison me donne la vérité ? Non. Des fois, je me trompe. Est-ce que les anciens me donnent la vérité ? Non,
non
plus.
Vous dites qu'il prend des risques à l'époque, d'ailleurs, en disant ça.
Oui, il prend des risques. Là. Mais d'ailleurs, il n'a pas beaucoup vécu en France. Hein. Il a vécu beaucoup à l'étranger. Où on lisait pas on le lisait moins.
Mais alors comment arrive-t-il à cette conclusion ? Je pense donc je suis. Vous parlez de l'idée du rêve.
Il y a au moins une chose de sûre quand je doute de tout. Il y a au moins une chose de sûre, c'est que je doute. Et donc le je pense est la vérité première. Le je pense est la vérité première. Et ça débouche sur rien puisque on est sûr de rien d'autre que de je pense. Ça va pas bien loin. Ça
fait déjà un point fixe quand même.
Ça. Ouais. Mais c'est un point fixe, mais qui me rassure pas sur le fait du monde extérieur. Alors, c'est là où il y a Dieu qui intervient pour lui. Il dit, Dieu existe, pourquoi ? Ben, c'est très simple. Moi, je suis imparfait et je suis limité. J'ai en moi l'idée de perfection et d'infini. Dieu. C'est pas moi qui peux l'avoir inventé, puisque l'imparfait peut pas inventer le parfait. Donc, Dieu est en moi. Et ce Dieu, il me déborde. C'est-à-dire qu'il me... Comme il est bon, il me garantit les vérités. Il me garantit les vérités que je peux avoir en m'attachant à faire fonctionner ma raison. Là, cette fois-ci, ça y est, j'ai des garanties de vérité. Il y a le premier point fixe. Je pense, et dans ce je pense, il y a Dieu, et Dieu qui me garantit tout. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, encore que cette expression ne soit pas de lui, elle est de Leibniz, mais enfin, à savoir que ça y est, je suis rassuré.
Donc un point fixe, et puis un avenir dans lequel je peux me projeter, parce que Dieu, quelque part, me garantit un horizon, en fait, et puis une certaine sécurité dans cet horizon.
Tout à fait, et lui-même, Descartes, va travailler dans cet horizon, hein, parce que, donc, d'abord, il invente une liberté au sens moderne, parce que en gros, si je veux vulgariser, mais sans trahir, je dirais que quand Descartes dit au XVIIe siècle, je pense donc je suis, il insiste sur je, hein, ce que n'avait fait aucun grec, aucun romain. En gros, si je peux me permettre, si l'auditeur veut bien m'excuser, ça veut dire je pense comme je veux et selon ma raison et je vous emmerde. C'est ça que ça veut dire. Il y a une provocation là. Hein, donc il y a une affirmation forte de la liberté qui donnera la Déclaration des droits de l'homme au XVIIIe. Et puis il y a l'autre penchant, c'est le fait que par les mathématiques, et ça personne n'y avait vraiment pensé, par les mathématiques, je peux me rendre. C'est lui qui le dit, qui l'explique. Hein. Je peux me rendre maître et possesseur de la nature.
Alors on va y venir si vous voulez bien. Ouais. Vous nous dites en tout cas donc dans ce chapitre que le coup de génie en fait donc de Descartes, on l'aura compris par votre propos, c'est une synthèse quelque part de la pensée grecque et de la pensée chrétienne. Hein.
Oui.
J'aimerais maintenant que vous nous parliez un petit peu plus de l'idée qu'il nous donne du bonheur, parce qu'une fois donc qu'on a ce point fixe, je pense donc je suis. Une fois qu'on a cet horizon assuré par Dieu, comment se développe cette idée du bonheur, comment ordonner quelque part l'existence et pourquoi peut-on imaginer une vie heureuse. Vous commenciez à parler de ces autres découvertes ou autres projections. Je pourrais vous citer d'ailleurs. Bref, derrière, il y a toute une idée aussi de la nature qu'il développe.
Oui, oui, oui. L'idée est très intéressante, c'est que pendant 1000 ans, le Moyen-Âge, il y a eu cette lente synthèse de la pensée judéo-chrétienne et de la pensée gréco-latine. Descartes arrive là, au bout, et il est le premier occidental, en quelque sorte, parce qu'il fait vraiment la synthèse des deux. Et qu'est-ce qu'il emprunte au christianisme, pour répondre à votre question sur la spécificité cartésienne du bonheur? Ce qu'il emprunte au christianisme, c'est l'idée de progrès, d'historicité. Le mot progrès n'existe pas encore. L'idée d'historicité, ce qu'apporte la Bible, c'est que le temps n'est pas cyclique, on tourne pas en rond. Le temps cyclique, c'est le temps naturel, hein, c'est été, automne, hiver, jour, nuit, germination, épanouissement de la plante, la graine qui meurt, ça recommence. Le temps cyclique, c'est le temps naturel. Mais c'est pas le temps biblique. Le temps biblique, c'est le temps où c'est plus un cercle, c'est une flèche, un vecteur qui, d'un passé, se projette vers un avenir en passant par un présent.
Ce qui est tout à fait l'idée qu'on se fait du temps aujourd'hui, mais on ne se rend pas compte de la révolution que ça a représenté.
Et voilà, c'est une idée typiquement cartésienne, c'est une idée typiquement occidentale, et les autres cultures l'acquièrent petit à petit, mais les autres cultures étaient comme nous avant, hein, on était dans le temps cyclique. Et le pape François, en 2013, c'était, je crois que c'est la première année de son pontificat, le 31 décembre, donc la veille du 1er janvier, le 31 décembre 2013, dans son homélie, François insiste fortement en employant les mots « l'Église s'oppose au temps cyclique et en appelle au temps linéaire », il a plutôt le temps linéaire, c'est-à-dire la flèche, quoi, hein, parce que c'est le sens de l'épanouissement, du progrès et de l'accomplissement.
Donc ça, c'est ce qu'il a emprunté aux chrétiens.
C'est ce qu'il emprunte. Alors, il emprunte d'autres choses, mais on va pas insister. Et ce qu'il va emprunter aux Grecs et aux Romains, c'est la raison. L'emploi systématique de la raison. S'il y avait eu que la Bible, il y aurait eu cette idée de se projeter vers un avenir, mais avec peu de moyens pour le faire. S'il y avait eu que le grec, on aurait eu les moyens de le faire, mais sans l'idée de se projeter dans l'avenir. Il a fallu les deux civilisations pour faire cette civilisation occidentale qui a deux piliers en quelque sorte. Le pilier progrès technologique largement partagé et le pilier droit de l'homme, liberté individuelle, démocratie. Et on a ça en germe chez Descartes.
Alors du coup, vous dites à un moment, cet individualisme sera sacralisé au XVIIIe siècle par la Déclaration des droits de l'homme. Vous l'avez dit, que le XXe siècle tente de mondialiser à partir de la Charte de l'ONU. Et un peu plus loin, au XXIe siècle, l'Occident est ainsi devenu la plus attractive des civilisations et aussi la plus puissante. La mondialisation est une occidentalisation. Pour les deux minutes qui nous restent avant qu'on fasse une première pause, vous notez un certain nombre de limites quand même à cette idée du bonheur que Descartes développe et qui habite notre monde, notre quotidien et donc probablement indirectement notre pensée, même si on le formule pas. Vous dites qu'il y a un certain nombre de méfaits, entre autres le fait qu'on a un rapport à la nature qui est un rapport dominateur. Cela engendre une forme d'individualisme excessif ou de matérialisme, d'absence de sens. Est-ce que vous pouvez préciser ces excès et pourquoi ce sont des excès de la pensée de Descartes ?
La dérive, c'est que le salut n'est plus le sauveur Jésus-Christ. Le salut, c'est la science, c'est la technique, c'est la consommation, c'est la production. Et il l'explique hein, dans le détail, et puis il commence, parce que c'est un grand mathématicien et un grand physicien. Aujourd'hui, quand on est en fac ou dans une grande école, on apprend les lois de Descartes, qui sont les lois de l'optique. Le parabole et hyperbole en maths, c'est lui. Donc il commence, il fait pas qu'en parler, il commence lui. Et il dit, on va se rendre maître et possesseur de la nature, et on va s'en servir pour vivre mieux. Y compris dans le domaine de la santé, il va dans le détail, hein. Y compris dans le domaine de la santé. Mais ça va aboutir au travers de notre civilisation actuelle, dont on parle assez souvent dans votre émission, Vivante Église, hein, chaque fois qu'il y a un thème, on s'aperçoit que tout ne va pas pour le mieux. Mais Pascal, au même siècle, qui est un contemporain de Descartes, Pascal va dire l'inverse. Il y a une petite phrase de Pascal, là, dans les pensées, qui fait même pas une ligne. Et qui dit Descartes deux points inutiles et incertains. C'est très méchant ça. Hein. Et pourquoi, qu'est-ce qu'il lui veut? Ben pour lui, le dieu de Descartes, c'est pas du tout le dieu des chrétiens. Le dieu de Descartes, c'est un mathématicien supérieur là qui vient garantir à Monsieur René Descartes que quand il pense, il a raison. Mais Pascal, dans son mémorial, dit moi c'est le dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et non, dit-il, et non le dieu des philosophes.
Voilà, donc un livre à lire. Vous restez avec nous, on va faire une première pause. Le paradoxe du bonheur, christianisme et histoire de la philosophie, paru aux éditions Salvator. Si vous voulez devenir encore plus intelligent en cette veille de Noël ou à l'occasion de ces fêtes, et surtout comprendre un petit peu voilà ce qui traverse votre esprit et notre quotidien, eh bien lisez cet ouvrage. On vous retrouve après, Bernard Ribal, pour continuer à essayer de comprendre le bonheur, ou en tout cas ce que les philosophes nous en disent. On parlera de Sartre et après de Jésus. Comprendre le bonheur, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Voilà, en cette presque veille de Noël, on va faire un petit peu de philosophie avec Bernard Ribal, agrégé et docteur en philosophie, président des Semaines Sociales de Toulouse et non pas de France, comme j'ai dit au début de l'émission. Même si vous avez été, je crois, vice-président
des Semaines Sociales de France. Longtemps, oui.
Et auteur donc d'un ouvrage paru aux éditions Salvator, Le paradoxe du bonheur, christianisme et histoire de la philosophie. Vous vouliez qu'on précise que l'ouvrage est relativement accessible. Je vais dire donc en vérité que ça se lit, on peut comprendre, faut quand même être bien réveillé, mais surtout c'est l'occasion pour vous de dire que vous avez essayé donc de faire un ouvrage qui puisse parler philo sans que pour autant on ait besoin de faire des études supérieures de philosophie. Dites-nous pourquoi ça vous tenait tant à cœur.
Parce que depuis que j'ai commencé à faire de la philosophie, ça fait maintenant longtemps, j'ai toujours été très très gêné par le fait que les philosophes ne peuvent s'adresser qu'à des philosophes, parce qu'il n'y a que des philosophes pour comprendre la philosophie. Et du coup, on tourne en rond là. Moi, j'ai fait à part du syndicalisme pour avoir les pieds sur terre, quoi, hein, pour pas être hors sol. Et il faut que les philosophes s'adressent à tout le monde, pas qu'à des philosophes, sinon ça ne sert à rien du tout. Donc j'essaie de faire des livres qui sont tout à fait abordables.
Voilà, et vous, quand vous dites que vous avez fait du syndicalisme, vous êtes aussi par ailleurs, parmi les multiples choses que vous faites, donc conseiller spécial du président de la CFTC. Alors, Jean-Paul Sartre, on s'est dit qu'il était bon de le choisir parce que là aussi, et charge à vous de nous l'expliquer au fur et à mesure de votre intervention, c'est un peu une des philosophies qui traîne dans la société française ou qui habite la société française, pour être moins péjoratif, et donc dont on a des traces et autres impacts dans notre quotidien, y compris dans nos têtes. Vous commencez à propos de Jean-Paul Sartre, dont le titre est « La liberté absolue entre angoisse et bonheur », par contextualiser. L'Europe sort de la Seconde Guerre mondiale et évidemment elle sort complètement plus qu'abasourdie. En Asie, vous dites, les poussières atomiques de Hiroshima et Nagasaki ne sont pas toutes retombées. Et voilà qu'en octobre 1945, Sartre, devant une salle comble à Paris, je vous cite, lance son fameux « Je suis condamné à être libre ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que Sartre voulait dire par là et oui. Pourquoi cela a autant frappé ?
Oui, condamné et libre, on voit bien que ça s'oppose, hein. C'est deux mots contradictoires. Et la phrase est très courte, et elle implique Jean-Paul Sartre lui-même, « Je suis condamné à être libre ». L'existentialisme est une philosophie de l'ambiguïté, hein, qui cultive l'ambiguïté, qui cultive le paradoxe et l'opposition au sein d'une même thématique. Mais l'idée est en fait claire. Condamné pourquoi ? Parce que l'existence est absurde. C'est même quasiment sa définition. Qu'est-ce que l'existence ? Il n'y a pas de réponse à ça. Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien ? Pas de réponse. La question a été posée par Leibniz, c'est repris par plein de philosophes, dont Sartre. Il n'y a pas de réponse à cette question. La définition de l'existence, c'est une non-définition. Et donc, je suis dans l'absurde.
Et ça, de fait, c'est une réalité d'après-guerre. C'est-à-dire, il y a une angoisse existentielle.
Et voilà, ça correspond à la découverte de l'absurde, par exemple, des camps de concentration. Mais souvent, il y a un quiproquo entre le public de Sartre et Sartre, parce que Sartre parle de philosophie, et le public, lui, entend actualité. Mais il profite du quiproquo. Il profite du quiproquo. Et il est le leader de Saint-Germain-des-Prés, quoi. Il est le leader mondial du centre mondial de la pensée, dans les années 45, 46, 47, quoi. Donc il y a une condamnation. Je suis condamné à l'absurde. Je suis condamné à l'angoisse de l'absurde. Mais en même temps, il y a une joie. Il y a un bonheur. Ou du moins une valeur.
Alors je vous cite.
Ou du moins une valeur. C'est la liberté.
C'est ainsi que l'homme est condamné à ne jamais se départir de cette angoisse existentielle, mais dès lors l'homme est libre du fait que l'existence est absurde, ni sens obligatoire, ni sens interdit, Dieu est mort, tous les repères fixes du bien et du mal, du vrai et du faux s'effondrent, tout est permis, et vous ajoutez, cette liberté que Sartre conçoit comme valeur, n'est pas tout à fait le bonheur parce qu'elle est elle-même angoissée. Ça, c'est quoi ? C'est le propos introductif, c'est-à-dire une liberté qui jaillit au cœur d'une angoisse existentielle,
oui,
c'est ça ?
C'est ce qui fait la difficulté de la compréhension de Sartre. C'est-à-dire que la liberté, c'est sans doute le philosophe qui met la liberté au sens le plus radical du terme. C'est vraiment là. Il y a beaucoup de philosophes qui ont parlé de la liberté, hein. Mais là, vraiment, c'est la liberté sans aucun obstacle, sans. La conscience est toujours en train de se projeter vers un ailleurs, sans qu'il y ait le moindre repère. pour la conseiller ou pour l'orienter. Donc, c'est la liberté totale. Cette liberté est une valeur pour lui. Mais en même temps, c'est un malheur. Parce que, justement, je sais pas où je vais, quoi. Il n'y a pas de sens. Il a promis qu'il ferait un ouvrage qui ferait suite à l'être et au néant, dans lequel il expliquerait ce qu'est le sens et ce qu'est une vie morale existentialiste, mais il n'a jamais écrit ce livre. Et donc, si Dieu est mort, tout est permis. Et quand on lit des recueils de nouvelles comme Le Mur, comme un mur de maçon, hein, c'est le nom des nouvelles d'un recueil de nouvelles. Dans ce recueil de nouvelles, c'est une véritable catastrophe neurasthénique, quoi. Hein, c'est les héros sont plus que des anti-héros, c'est des gens complètement paumés.
Alors, avant qu'on continue de développer sa pensée, est-ce que vous pouvez juste faire un pont peut-être avec aujourd'hui ? Pourquoi est-il opportun de continuer à parler de la pensée de Jean-Paul Sartre aujourd'hui en 2018 ?
Alors, je crois que ce qui a marqué beaucoup, d'ailleurs mai 68, il y est pour beaucoup, il a été le philosophe très médiatique. Aucun philosophe, depuis le XVIIe siècle et même peut-être avant, n'a été aussi médiatique que Sartre. Il faut remonter peut-être à Saint-Bernard pour trouver un philosophe médiatique. Très très médiatique, il a fait trembler les gouvernements, y compris des grandes puissances, quoi, hein, par ses propos et ses avis sur ceci ou cela dans l'actualité. Et ce qu'il a donné comme idée et a mis dans la tête des gens, et les gens l'ont encore dans la tête, pas tout le monde, mais la plupart, c'est que la liberté est vraiment absolue, quoi. Rien ne peut me contraindre. On est passé d'une souveraineté de l'État à de plus en plus la souveraineté individuelle. Par exemple, dans les affaires de procréation ou de sexualité, de mariage, etc., on passe à la souveraineté individuelle. C'est à chacun de décider ce qu'il veut. L'État n'a pas à y mettre la loi là-dedans.
Alors, il y a une précision à apporter, pardon, je vous ai coupé. Hein.
Oui, je vous en prie.
C'est la distinction qu'il fait donc entre l'existence et l'essence. Alors, c'est probablement difficile à expliquer, hein, mais bon, chacun son boulot. C'est vous le philosophe grand public. Et pour ça, vous citez donc Antoine Roquentin dans La Nausée, donc oui. Un roman de 1938, et puis une histoire de Racine. Est-ce que vous nous expliquez l'expérience de cet Antoine Roquentin et de ses racines qui peuvent peut-être aider à comprendre la différence entre l'un et l'autre?
Il est assis sur un banc public, dans un jardin public. Il y a une racine de marronnier qui passe sous le banc, et il dit ce n'est pas une racine. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que l'essence de la racine, à savoir une pompe aspirante, c'est ça une racine, hein, l'essence, la définition d'une racine, la définition botanique d'une racine, ben, elle ne rend pas compte du « ça existe » de la racine. Elle rend compte du mécanisme de la racine, mais pas du « ça existe ». Le « ça existe », lui, est complètement absurde. Il dit, c'est une contingence, il emploie le mot au sens latin, quoi, hein, c'est contingere, c'est une rencontre. Je rencontre l'existence, mais j'ai pas donné rendez-vous à l'existence.
Ce que je comprends pas, c'est en quoi c'est forcément absurde. La racine peut exister et on peut ne pas en faire un fromage, si je peux
un médecin n'est pas absurde, il soigne des malades. Il est d'accord, Sartre, là-dessus. Mais ce qui est absurde, c'est l'englobant, c'est la totalité. C'est l'humanité tout entière, c'est la planète tout entière, c'est les choses. Tout ça, pourquoi ça existe? Et là, dit-il, il n'y a aucune raison, et c'est même la prise de conscience de l'existence, c'est la découverte que, c'est une citation de Sartre, ce que je vais faire là, le monde de l'existence n'est pas celui des raisons et des explications. L'existence, c'est... alors, quand il dit la phrase que vous venez de citer, vous me demandez de l'expliquer... il dit dans l'existentialisme est un humanisme, il dit pour l'homme, l'existence précède l'essence. La phrase est devenue très célèbre, même si pas grand monde y comprend quelque chose. Ça veut dire clairement que l'homme n'a pas de définition. La conscience humaine n'a pas de définition. Elle est toujours capable d'être autre que ce qu'elle est. Elle est toujours transcendance. Bon, emprunté au vocabulaire religieux d'ailleurs, hein, mais il l'emploie pas dans un sens religieux, il l'emploie dans le sens de sortir de soi pour se projeter vers un ailleurs. Et l'homme s'invente en quelque sorte, faire et se faisant se faire, dit-il.
Est-ce que c'est pas la racine aussi du relativisme contemporain?
Oui, mais bien sûr, mais c'est c'est bien plus que le relativisme, parce que le relativisme, c'est avoir quelques idées, mais en douter, et penser que les autres peuvent autant avoir raison que moi. Mais là, c'est, il n'y a rien du tout, quoi. Hein, j'ai à inventer mes propres valeurs, mais comment croire à des valeurs que j'invente, si elles sont pas, elles ont pas une garantie quelque part. Or, il n'y a aucune garantie, là, nulle part.
Vous me disiez en préparant l'émission que Sartre, comment dire, ne parle pas souvent du bonheur, mais peut-être y a-t-il une manière d'éclairer quand même l'idée qu'il se faisait peut-être un tout petit peu du bonheur. Je vais essayer de le résumer avec mes mots et ce que j'en ai compris. Je vais vous laisser développer. C'est qu'à un moment au milieu de cette espèce de d'angoisse existentielle, hein,
oui.
Où y a juste le surgissement, on va dire, de la liberté.
Il c'est y a... ce qu'on peut appeler le cafard, hein, de point de vue. Du quotidien, de la vie quotidienne.
Voilà, il y a quand même les autres. Et alors, c'est les autres, oui. Chez Sartre, en fait, ont quelque part deux actions sur moi-même. Le premier, c'est que c'est une action, en fait, qui m'enferme.
Ouais.
Voilà, c'est d'où l'expression, probablement, l'enfer, c'est les autres. Et en même temps, l'autre me responsabilise et m'invite à quoi ? À aller, à exercer cette liberté et à
oui,
développer
tout à fait.
Ce que
toujours,
je suis, ça.
Toujours cette philosophie de l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'on a le même et son contraire, là. Vous avez d'un côté, Huis clos, une pièce de théâtre, très grande réussite, même encore aujourd'hui, chaque jour, quelque part sur la planète, on joue Huis clos, et même plusieurs fois par jour. C'est un très très bon dramaturge, je le trouve moins bon philosophe, dans la même tendance philosophique, Heidegger est plus profond. Mais dans Huis clos, on va nous dire l'enfer c'est les autres. Pourquoi ? Parce que je suis existence et non pas essence. C'est-à-dire, on l'a dit, on vient de le dire, je peux toujours être autre. Je peux, de jour en jour, d'année en année, je peux être autre que ce que j'ai été.
C'est-à-dire devenir quelqu'un d'autre.
Et
évoluer, c'est ça que vous voulez dire ?
Oui. Et autrui m'empêche. Parce que autrui me fige dans l'image qu'il a de moi. Et Garcin restera un lâche, dans Huis clos. Inès restera lesbienne, peut faire ce qu'elle veut, reste... garde cette image, elle est figée dans cette image. Estelle va rester infanticide. Elle pourra pas sortir de cette image. Et c'est un peu ce qu'on vit, hein. Par exemple, l'élève qui est au collège, s'il est chahuteur en sixième, et s'il veut arrêter d'être chahuteur en quatrième, il peut pas. Parce que ses copains, comme les profs, le visent comme chahuteur, quoi qu'il fasse. Il peut plus, il faut qu'il change d'établissement. Et c'est pareil d'ailleurs pour le prof. Qui, dès la première heure de cours, donne une image que les élèves vont se transmettre de génération d'élèves en génération d'élèves. Donc, on est figé dans une image, et du coup, l'enfer, c'est les autres. C'est-à-dire qu'il m'empêche d'être libre, il m'empêche d'être sujet, il m'empêche d'être conscience, il m'empêche d'être transcendance. Mais en même temps, une autre pièce, très réussie aussi, Les mains sales, où là, on s'aperçoit de l'inverse, quoi, hein. C'est par les autres que je vais devenir libre. Il s'agit de quelqu'un qui a commis un meurtre terroriste au nom d'une cause politique, mais la politique politicienne s'est retournée, et maintenant c'est son propre camp qui l'accuse d'avoir commis un crime, et il dit « moi je suis pas une marionnette, on me dit qu'il faut que je dise que je suis pour rien, ben je veux dire que c'est bien moi qui l'ai fait. Et ma liberté consistera concrètement à être reconnu comme sujet par les autres, même si j'ai été déterminé par les circonstances à devenir un meurtrier, je revendique la responsabilité de mon geste, et parce que je le revendique, je vais devenir sujet, je vais devenir libre, à tel point d'ailleurs que les autres vont me considérer très différemment, puisqu'ils vont me considérer comme responsable de mon acte.
Alors, est-ce que cette pensée est une impasse du bonheur ? En tout cas, c'est comme ça que vous finissez, je crois, presque le chapitre sur Jean-Paul Sartre. Le héros existentiel voudrait bien s'ouvrir à l'altérité. Vous laissez entendre que quelque part, c'est ce mouvement qui conduit au bonheur. En tout
oui.
cas, c'est l'impression que c'est presque ce qu'a entrevu Sartre aussi, je sais pas.
Oui.
Mais il ne pense qu'à lui, l'impasse du bonheur. Ça veut dire quoi, en fait, il ne pense qu'à lui ?
Ben oui, c'est ce que corrigera toujours le christianisme. C'est que il y a bien chez Sartre l'exaltation d'une ouverture à l'altérité, d'une ouverture à l'autrement, d'une ouverture à l'ailleurs, mais c'est toujours pollué par le fait que ce n'est pas un appel à me donner qui viendrait de Dieu, par exemple. Mais c'est un désir de me donner. Et tout désir est une préoccupation de soi. Je peux pas me donner à l'altérité, je peux pas me donner aux autres à partir d'un désir qui le soucie de moi-même. Ça peut pas fonctionner. C'est l'échec du nietzschéisme, de la philosophie de Nietzsche. Et ça sera aussi l'échec de la philosophie de Sartre qui, à bien des égards, est un disciple de Nietzsche d'ailleurs.
Voilà, donc vous voyez, on en a quand même des pointures dans la région qui nous aident à devenir intelligents. Oh. Bernard Ribal, Le paradoxe du bonheur, christianisme et histoire de la philosophie, paru aux éditions Salvator. Et donc vous allez nous introduire au Jésus philosophe, pour paraphraser le titre d'un ouvrage d'un célèbre de nos contemporains, puisqu'on va finir cette émission avec un regard philosophique sur Jésus et l'idée que le christianisme nous donne du bonheur.
Présence dans la cité mariale 96. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Comprendre le bonheur, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Voilà un beau challenge en cette presque veille de Noël. Essayez avec Bernard Ribal, donc agrégé docteur en philosophie, président des Semaines Sociales de Toulouse et auteur d'un ouvrage Le paradoxe du bonheur, paru aux éditions Salvator. Essayez de comprendre le bonheur, ou en tout cas ce qu'en ont dit certains grands philosophes. On a donc parlé de Descartes et de Sartre. Si vous deviez résumer peut-être, Bernard Ribal, ces deux idées du bonheur de Descartes et de Sartre, et surtout en quoi elles sont en partie dans nos têtes aujourd'hui, avant que l'on parle de Jésus.
Mais Descartes, du XVIIe siècle, est en quête de se rassurer intellectuellement en découvrant des vérités stables, fixes, dont on est sûr et sont garanties. Alors que Sartre, au XXe siècle, va nous dire il n'y a aucun repère. L'existence est absurde. Là, il y a opposition radicale entre les deux, mais il y a quand même un point commun, c'est que tous les deux insistent sur la liberté de la conscience, malgré tout. C'est d'ailleurs deux philosophes français, il y a une filiation quand même.
Et les échos dans nos vies aujourd'hui de ces deux
alors,
penseurs.
L'écho principal de Descartes, c'est que il inaugure la culture européenne, la civilisation occidentale, et Sartre va inaugurer cette philosophie peut-être plus contestable de la liberté où on fait de n'importe quoi puisqu'il y a pas de repère ni du bien ni du mal, ni du vrai ni du faux.
Troisième figure, même si vous tenez à préciser que ce n'est pas d'abord un philosophe, donc Jésus-Christ. 0 à 33 environ, je lis le sous-titre, le bonheur par la réhabilitation dans la dignité, par le don de soi et l'espérance. Alors avant qu'on développe ce que Jésus a de révolutionnaire dans l'histoire de la pensée, j'aimerais que vous contextualisez, on va dire, l'arrivée de Jésus et la pensée qui est celle de son époque. Vous avez une phrase, il faut juste que je la retrouve. Alors je vais essayer de résumer puisque je ne retrouve pas. Vous dites qu'en fait, à l'époque, il y a deux voies s'offrent à l'homme pour ne plus souffrir du désir à l'époque. L'une des voies est d'assouvir le désir en assurant le passage du déchirement de la vie vers la paix intérieure. Vous allez nous expliquer. Telle est la voie de Platon ou d'Aristote. Et l'autre voie est de faire le plus possible le désir faute de pouvoir l'assouvir. Bref, une question autour du désir. Et soit on cherche à l'assouvir, soit on cherche à l'éteindre. Expliquez-nous ce contexte.
Oui, c'est toute la philosophie de l'Antiquité. Il faudrait des heures et des heures là pour l'approfondir, mais on va essayer de faire plus vite. Il y a un désir d'éternité, un désir de d'immuabilité. Alors que on a l'expérience quotidienne du tout foulquant. Les gens vieillissent, les paysages changent, les coutumes, elles aussi. Et on voudrait trouver quelque chose d'infini, d'absolu, de stable, d'illimité. Et il y a deux solutions. Ou je me mets à le chercher pour assouvir ce désir, et c'est la voie de Platon et d'Aristote, ou j'éteins le désir. Ce sera la voie du stoïcisme et même de l'épicurisme, contrairement à ce qu'on croit. Voilà les tendances de l'Antiquité. Et le Christ va arriver là en rupture complète. Parce que lui, il dit, le bonheur, ce n'est pas de chercher l'immuabilité. Ce n'est pas de chercher l'absolu. Au contraire, c'est l'ouverture à l'altérité. C'est même prendre le risque de mourir. Par exemple, Platon va nous dire que on ne peut aller vers la vérité absolue et parfaite que si on se désincarne, se débarrasse du corps et du monde matériel pour s'élever vers le monde des idées. Le Christ dit non, attention, incarnation. Et lorsque dans la Genèse on raconte la création de l'univers, c'est pas un livre de physique, hein, c'est un livre de poésie. La Genèse dit à chaque jour de la création, et Dieu vit que cela était bon. C'est-à-dire que c'est le contraire de la pensée grecque. Là. De même, je le disais tout à l'heure, hein, l'amour est don de soi à l'autre jusqu'à s'y perdre. Hein. Au contraire, dans le banquet, Socrate va chercher à trouver une identité figée, fixe, la beauté absolue. Complètement désincarné.
Alors, je vous cite. Le paradoxe du christianisme est d'en appeler à un bonheur en sens inverse de la raison grecque. L'identité humaine accède à sa pleine forme chrétienne au moment même où elle s'abandonne, où elle se donne éperdument à l'autre jusqu'à se sacrifier pour l'autre, pour le bonheur des autres. On a l'impression que, enfin, en tout cas, quand on vous lit, vous introduisez tout de suite, en fait, à la pensée, en fait, du christianisme, et après, vous la développez. On a l'impression que c'est simple, mais c'est tellement grand que après, c'est compliqué d'entrer dedans. On a l'impression que c'est presque l'inverse que les mouvements philosophiques habituels, où c'est complexe et ça finit par s'éclairer au fur et à mesure.
Oui, parce que je suis pas en train d'inventer une philosophie là. J'ai d'abord la foi et ensuite je suis devenu philosophe. C'est pas la philosophie qui m'a donné la foi. Et donc j'essaie de respecter ça. C'est-à-dire que le christianisme n'est pas une philosophie, c'est une vérité révélée. C'est pas une vérité démontrée, c'est une vérité révélée. C'est un témoignage. Le Christ témoigne. Les apôtres témoignent. Mes parents ont témoigné que leurs parents avaient témoigné, et comme ça que les apôtres, en allant de plus en plus en arrière, ont témoigné. Donc c'est tout à fait différent. Et là où je suis tout à fait de votre avis, c'est que la révélation du bonheur, hein, bonne nouvelle, l'évangile, hein, du bonheur, du bonheur chrétien, c'est qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que l'amour. D'ailleurs, Dieu est amour, c'est sa définition, Saint Jean. Hein. Et il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est encore Saint Jean. C'est-à-dire que le paradoxe là, c'est que là où je suis le plus heureux, où il y a le plus d'épanouissement, où il y a le plus de bonheur, c'est au moment où je renonce à moi-même jusqu'à en mourir pour autrui, pour les autres, pour une cause. Et dans les Actes des Apôtres, on a à peu près la même idée. Hein. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Chez Saint Luc, qui conservera sa vie la perdra, qui la perdra la conservera. C'est toujours donc cette même idée, je l'invente pas. Donc c'est le paradoxe du je me trouve en me perdant, c'est-à-dire je m'affirme en me donnant aux limites de moi-même, quoi, aux limites de ma propre vie.
Alors vous expliquez aussi que ce que Jésus apporte de nouveau, semble-t-il, dans l'histoire, c'est que c'est Dieu qui donne la dignité absolue à chaque personne. Là aussi, peut-être pour utiliser l'expression que vous utilisiez tout à l'heure pour Descartes, c'est un point d'équilibre en fait, ou quelque chose sur lequel on peut s'appuyer et qui est nouveau dans l'histoire. Est-ce que vous pouvez expliquer ça ?
Oui. D'abord, pour en arriver à votre question, il y a les deux formes de bonheur dont on parle depuis le début de cette émission, les deux formes de bonheur, c'est-à-dire la sécurisation de soi, ou bien, à l'inverse, le don de soi. Ces deux formes de bonheur sont simultanées, et même dans le christianisme. Si je regarde le Notre Père, ou le Je vous salue, les prières, je veux dire, les plus basiques, ça veut pas dire qu'elles sont pas bien, hein. Basiques, ça veut dire que tout le monde les connaît. Les prières les plus basiques du christianisme, vous avez chaque fois deux parties. Une partie exaltation du don de soi à la transcendance et l'altérité. Hein, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il y a une exaltation. Et puis, tout de suite après, l'angoisse. Donne-nous notre pain quotidien. Je vous salue, c'est pareil, je veux pas perdre de temps à tout analyser, mais regardons bien, il y a les deux parties dans le je vous salue aussi. La dignité, est quelque chose qui aujourd'hui est plus que d'actualité, tout le monde en a plein la bouche de ce mot-là. Il faut respecter la dignité de l'homme. Mais pourquoi faudrait-il respecter la dignité de l'homme? Pourquoi l'homme ne serait-il pas un animal supérieur? C'est plus sophistiqué que les autres. Et la réponse est très claire, c'est que nous sommes tous indignes. Moralement, nous sommes tous indignes, plus ou moins, mais on est tous indignes. Or, il y a une dignité, y compris du salaud, qui consiste pas à le laisser continuer à assassiner les gens, mais qui, par exemple, lui accorde les droits de la défense, le droit d'avoir un avocat, le respect du code de procédure pénale. Pourquoi y a-t-il une dignité? C'est qu'il y a deux formes de dignité. Il y a la dignité morale, ça on l'a pas. Et puis la dignité spirituelle, qui est absolue, qui est intacte, quoi que je fasse, quoi que je sois. Un vieillard grabataire a autant de dignité qu'un jeune athlète. Un trisomique a autant de dignité qu'Albert Einstein. La dignité n'est pas relative à mes compétences. La dignité n'est pas relative à ceci ou à cela. Elle est absolue. Pourquoi ? Ben, les seuls qui peuvent répondre à cette question, je dis pas les seuls qui le respectent, hein, parce que il y a des athées qui la respectent et des chrétiens qui la respectent pas. Mais les seuls qui fondent la dignité de la personne humaine, ce sont les chrétiens, parce qu'ils disent, il y a le Christ incarné en chacun de nous, il y a le divin, il y a une christification, et puis il y a la rédemption, il y a la croix, on est pardonné. Donc celui qui est indigne, et c'est tout le monde, celui qui est indigne moralement, il est digne absolument. Et ça, c'est une idée qui est extrêmement féconde dans le XXIe siècle, parce que si on ne croit pas en ça, si on ne croit pas en la dignité absolue de la personne humaine, alors c'est la barbarie. C'est la barbarie dont s'est rendu coupable Lénine et Staline, ou Hitler, ou Robespierre, pardon, un Français. C'est-à-dire que c'est pas forcément des voyous, c'est pas des voyous du tout d'ailleurs. Ils mettent une valeur au-dessus de la dignité, et parce qu'ils placent, par exemple Robespierre, qui surnommé l'incorruptible, ils placent la révolution, la liberté, la démocratie, la république au-dessus de tout. Ils violent la dignité de la personne humaine en faisant condamner le simple suspect. Robespierre n'aura obtenu ni la liberté, ni la République, ni la démocratie, en violant en même temps la dignité, comme le feront d'ailleurs Lénine, Staline et bien d'autres. Donc la dignité, c'est la garantie, la dignité absolue, c'est la garantie de ne pas entrer en barbarie, et seul le christianisme peut parler de dignité absolue, parce qu'il faut comprendre la dimension sacrée, la dimension spirituelle, la dimension christique, la dimension incarnation, la dimension rédemption, pour comprendre le côté intact de la dignité absolue de la personne humaine.
Alors si, dans les quelques minutes qui nous restent, si on doit parler du, on va dire, de l'idée du bonheur, ou en tout cas du témoignage du bonheur qu'a donné Jésus, puisque c'est comme ça qu'il faudrait peut-être le dire, vous avez un sous-chapitre dans ce chapitre consacré à Jésus-Christ, la sérénité, le feu et la paix. On entend derrière ce que vous dites qu'il y a comme une forme paradoxale en fait du bonheur dans le christianisme ou dans l'exemple qui est donné par Jésus, où se mêle donc, on va dire, peut-être la plus grande des joies et parfois le plus grand sacrifice, mais...
Le sacrifice n'excluant pas la joie d'ailleurs.
Mais est-ce que le sens le plus profond du bonheur, ça n'est pas en fait que Jésus vient donner du sens, non seulement à l'existence, mais du sens à la souffrance? Est-ce que vous pouvez expliquer ça?
Oui, tout à fait. Il faut d'abord comprendre ce que ça veut dire le sens. Là aussi, c'est comme la dignité, on en a plein la bouche. Dignité de la personne humaine, il faut donner du sens à l'existence. Mais le contraire, c'est le nombrilisme. Dans le nombrilisme, on a Narcisse comme exemple. Narcisse qui se regarde dans l'eau, qui finit par y tomber dedans, à mourir, à se suicider dans sa propre image. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens. Et on est tous nombrilistes, plus ou moins. On est tous individualistes dans la civilisation d'aujourd'hui. Et donner du sens, comme le mot sens l'indique, sens c'est la direction, pour donner du sens, il faut aller vers l'ailleurs, il faut s'attacher à autre chose que soi-même. C'est ça le sens. Et seul le don de soi à l'autre, finalement, donne du sens. Et le christianisme apporte cette dimension en montrant que c'est pas le désir qui me fait me donner aux autres, mais que c'est un don qui donne à me donner, le don du Christ sur la croix, qui m'appelle, qui me donne à me donner moi-même, et que c'est un arrachement à moi-même qui donne le sens dont vous venez de parler.
Alors, je finirai par une citation. L'amour est communion à l'acte originel d'exister, le sortir de soi. C'est ainsi que l'amour ne peut pas s'anéantir, il ne peut pas mourir. Non pas extinction de vie, mais intensité de vie. Quand je meurs par amour, je meurs au souci de moi-même, mais je renais dans l'existence authentique de l'amour. Si vous n'avez pas tout compris, eh bien, il faut acheter le bouquin.
Si je peux me permettre, c'est très simple. C'est que aimer, c'est sortir de soi. Je crois que tout le monde comprend que c'est le don de soi. Et exister, étymologie latine, ex sto, c'est sortir de soi. Aimer, exister et sortir de soi sont synonymes. L'amour est existence elle-même. L'amour est manifestation de l'être. Il est un sortir du néant. Alors, ça me permet de vous dire qu'il y aura, j'avais fait des livres auparavant, mais le prochain livre développera cette idée d'une ontologie chrétienne.
Merci beaucoup Bernard Ibal d'être venu au micro de Vivante Église ce matin et de nous avoir introduit à votre ouvrage, cet ouvrage on va dire semi-grand public, et en tout cas cette émission qui a essayé de l'être, Le paradoxe du bonheur, christianisme et histoire de la philosophie, paru aux éditions Salvator. Merci beaucoup.
Merci.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.